La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la physique, comment est-ce que ça se compte? Et compte s'écrit là C-O-N-T-E. On présente souvent la physique, notamment celle dite théorique, comme un formalisme qui planerait au-dessus du langage de tous les jours. Sa vraie langue, ce serait les mathématiques plutôt que les mots ordinaires. En somme, la physique devrait être considérée comme une sorte d'alpinisme intellectuel, consistant à grimper très haut, là où le logos est rare et la vérité mutique. En vertu de cette conception que je cite souvent, certains puristes considèrent la traduction de la physique dans la langue commune comme un pis-aller, comme une concession regrettable faite au désir de communication. Il faut leur reconnaître quelques arguments. Par exemple, Paul Valéry a eu raison de noter qu'il est plus facile de dire une belle chose que de dire une chose précise, et que le fait de penser trop fort, trop loin, trop exactement mène à mal écrire. Fin de citation. Reste qu'il n'est jamais possible de laisser le langage de côté, ni quand on fait de la recherche en physique, ni bien sûr quand on l'enseigne ou quand on la vulgarise. Ces trois activités nécessitent même qu'on se livre à d'incessantes causeries. Pensez aux particules élémentaires. Étant invisibles, elles ne sont jamais vraiment là, en évidence devant nous, de sorte que nous n'avons pas d'autre choix que de les invoquer par le verbe. C'est pourquoi la physique demeure en un sens un drame parlé, pour reprendre les mots d'un homme de théâtre, j'ai nommé Valère Novarina. Mais alors se pose la question de savoir comment bien la dire. Quel lien faut-il bâtir entre la physique et la parole ? Pour répondre à cette question, j'ai invité un autre homme de théâtre, pas seulement d'ailleurs, qui s'appelle Stéphane Fraisse. Bonjour Stéphane Fraisse.
Bonjour Étienne.
Vous êtes acteur, vous avez reçu des Césars et des Molières. Et vous jouez en ce moment au Théâtre Antoine le Cercle des Poètes Disparus, la pièce de Tom Schulman, mise en scène par Olivier Soliveres. Et vous jouez dans cette pièce le rôle de John Keating, le professeur. Et c'est en assistant à cette pièce, que m'est venue l'idée de vous inviter, parce que j'ai l'impression que vous avez des choses à dire sur la façon de verbaliser, de baliser par le verbe la physique et d'autres disciplines, scientifiques ou non d'ailleurs. Et j'ai regardé la liste des films que vous avez tournés pour la télévision, pour le cinéma, des pièces de théâtre, et j'étais frappé par le fait que vous avez joué dans un film qui s'appelle « Je hais les enfants », un autre qui s'appelle « Je hais les parents », un autre qui s'appelle « Je hais les vacances ». Et ma question est, pourquoi tant de haine chez vous?
Je hais, mais j'ai besoin de vivre aussi. C'est pas ceux que je mettrai en premier sur ma filmographie.
C'est ceux qui m'ont frappé.
D'abord, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une équation physique pour traduire l'imposture? Parce que j'ai un peu l'impression d'être un imposteur dans cette émission magnifique que j'écoute à longueur de semaine. Je crois qu'il y a quelque chose de probablement d'un peu...
On va parler de votre rapport à la science, par exemple, de comment vous l'avez écouté, pratiqué lorsque vous étiez à l'école, comment est-ce que vous l'écoutez aujourd'hui, si vous l'écoutez, vous la lisez. Vous avez écrit un éditorial dans le livre qui présente la pièce dont j'ai parlé, dans lequel vous remerciez l'un de vos professeurs. Vous vous présentez à la fois comme un cancre, qui comprend rien, et en même temps comme quelqu'un qui a eu 18 sur 20 en physique, au baccalauréat. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ces deux assertions?
Non, justement. Il y en a une évidente si on ne creuse pas un peu. Parce que j'étais quand même le type qui était le plus près du mur du fond et de la fenêtre. Et alors parmi les matières dans lesquelles j'excellais en médiocrité, il y avait effectivement la physique. C'est pour ça qu'en plus de ça, être là est particulièrement émouvant pour moi.
Tout va bien se passer.
Je pense qu'il y a un petit sentiment de masochisme en moi qui se réveille quand je me dis, je suis rentré dans ce studio en me disant, j'ai l'impression d'être dans un trou noir. Enfin, faut que je fasse attention aux mots que je prononce ici. Et donc, en fait, voilà, ce prof est rentré dans la classe de terminale, premier cours, un type absolument incroyable, avec des carreaux larges comme ça, avec qui il faisait des yeux en tête d'épingle, avec un costume qu'il a porté toute l'année, personnage incroyable. Et il arrive, et il rate l'estrade, et il se vautre sur les élèves du premier rang, et il se démonte pas, il se relève, il prend son petit cartable troué, il tend les bras, et il fait C2H2, acétylène. Et je me suis dit, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et doucement, avec le temps, je me suis d'abord rendu compte que je m'approchais de lui. Je changeais de rang pour m'approcher, pour l'écouter, pour le voir, parce qu'en fait, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui était un supplément à la physique, c'était la passion.
C'était une mise en scène, visiblement.
Oui, mais elle n'était pas cherchée. Il était profondément passionné.
Et pourquoi l'acétylène ?
Je pense que c'était le premier cours qu'il voulait nous donner dans cette année de terminale.
Parce que c'est un... ces molécules...
Ah, mais il faisait physique-chimie.
Très explosive.
Ben, je dois dire que notre première rencontre a été explosive, d'ailleurs, puisque peut-être qu'il l'a fait exprès, qu'il l'a illustré. Mais c'était... Et je me suis rendu compte, oui, que cette passion, elle ajoutait quelque chose au savoir et à la connaissance de cet homme par le jeu, par l'envie de nous transmettre quelque chose. Une envie qui était pas séductrice. Il était profondément passionné par ce qu'il faisait et ça le rendait personnage de théâtre. Et donc j'ai accroché le wagon et il m'a emmené comme ça jusqu'en...
Vous avez 18 en physique, on l'a dit, au baccalauréat et dans les autres matières.
On peut passer cette question et on peut... Non, je voudrais pas perdre la face tout de suite.
Comment s'appelait ce professeur ?
Il s'appelait Monsieur Reville, et je crois qu'il est plus de ce monde, malheureusement, puisque ça fait un moment, moi, que j'étais en terminale, mais...
Mais Stéphane Frézès, vous avez remarqué que c'est Reville, c'est l'anagramme de livre.
Mais oui, mais vous êtes le roi des anagrammes.
Non, là, c'est facile, hein. Oui, Reville, livre.
Non,
ça saute aux yeux.
Oui. Et vous savez ce que c'est, l'étymologie de lire?
Non, pas de colle ici.
Ah non, mais attention, parce que si on joue la provoque, je vais jusqu'au bout. Ben, lire, l'étymologie première, c'est choisir. Mais il y a une étymologie que j'aime et qui donne un sens particulier, je trouve, au mot lire, c'est cueillir. En fait, comme quand on lit, on ramasse des mots. Et je trouve que probablement il y a quelque chose d'assez en rapport avec mon métier.
Est-ce que vous avez joué dans votre carrière d'acteur, de comédien, de doubleur aussi?
Non,
de scientifiques, des personnages.
Non, jamais. On me les a. J'avais probablement pas la tête de l'emploi.
Bon. Mm. Et est-ce que vous reconnaissez dans le personnage de John Keating que vous incarnez au théâtre en ce moment?
Ah oui, ah, bien sûr.
Et que vous allez jouer ce soir d'ailleurs.
Oui, que je joue.
Je vous remercie d'ailleurs d'avoir eu la gentillesse d'accepter.
Alors que vous l'auriez proposé à 20h, je vous aurais peut-être dit non, vu que je rentre à 21h sur scène. Oui, bien sûr que je m'y reconnais, mais pour plein de raisons. Parce que d'abord, évidemment, c'est un homme de savoir qui enseigne, mais qui enseigne avec passion, et qui est très singulier, très iconoclaste dans sa manière d'enseigner, et qui a cette petite chose, justement, qu'avait ce monsieur Reville, cette passion, peut-être un peu plus séducteur que ce monsieur, que ce professeur de physique-chimie, mais cette passion qu'il lui fait fabriquer une manière d'aller vers l'autre, d'aller vers ses élèves, assez particulière, assez singulière. Tout se construit sur le jeu. C'est en fait, pour moi, qui suis acteur, une mise en abîme de la transmission. C'est-à-dire que l'acteur qui joue un enseignant, mais qui joue aussi, qui joue à être lui-même l'acteur qu'il est. Et c'est donc à la fois extrêmement ludique et extrêmement enrichissant pour moi. Le texte... Alors, en fait, je me rends compte que c'est un professeur de littérature, mais sa philosophie, cette manière qu'il a de transmettre... peut s'étendre à toutes les autres matières. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le personnage. Il dit, hein, je suis sûr qu'il y en a certains qui pensent que la littérature est inutile pour le droit, le commerce, la médecine. Il a une manière d'accéder au savoir à la fois joyeuse et ludique. Et voilà, et donc en fait, ce sont pas mal de...
Stéphane Frézès, vous êtes un acteur qui joue le rôle d'un professeur, mais est-ce que vous pensez que cette relation gagnerait à être symétrisée? C'est-à-dire, il faudrait que les professeurs deviennent des acteurs, qu'ils sont d'une certaine façon.
Mais alors hier soir, j'avais ce qu'on appelle un bord de scène, c'est-à-dire qu'il y avait une classe dans le théâtre. Je les ai rencontrés à la fin du spectacle. Ils étaient,
bord de scène.
On appelle ça un bord de scène, c'est-à-dire que les quelques élèves qui sont là avec leurs professeurs viennent dans la salle quand la salle est vidée Et on se retrouve au bord de la Seine pour parler, échanger autour de ce qu'ils viennent de voir. Et ils étaient extrêmement émus, troublés. Ils avaient 16, 17 ans. Donc, pour moi, c'est merveilleux parce que on sait qu'au théâtre, on amène rarement des jeunes. Et là, ils viennent d'ailleurs très souvent en dehors de leur classe par eux-mêmes, ce qui est pour moi le plus grand succès triomphe de la pièce, c'est qu'il soit ce spectacle soit totalement intergénérationnel. Et je leur ai posé la question extrêmement perverse et sournoise en tout cas, de savoir si leur professeur ressemblait un peu à mon Keating. Il y a eu un grand silence qui a suivi.
En présence du professeur.
J'avais peur de perdre quelques
mots. En présence du professeur.
Ben oui, ils étaient là. Mais en même temps, bon, d'abord, je savais pas qui j'avais à côté de moi. Et j'ai compris, et je comprends, et puis je retiens aussi de ce qu'a été mon adolescence et ma jeunesse au lycée, qui m'a manqué, et qu'il manque souvent cet appétit de jeu, cette capacité à pouvoir donner au-delà du savoir de l'émotion, à rendre tactile, sensuel, palpable, ce qu'on donne à entendre.
Mais peut-être qu'un scientifique a peur qu'en montrant trop de sa subjectivité, il retire de l'objectivité au propos
oui,
qu'il tient.
Bien sûr, c'est le mot émotion est un mot qui fait peur. Moi, je pense en réalité que les enseignants qui préparent le CAPES ou qui se préparent à devenir enseignant devraient traîner un peu dans un couloir dramatique, ne serait-ce que pour comprendre aussi ce sentiment d'abord d'être sur une scène, comme vous l'êtes vous quand vous donnez des conférences, et ce goût et cette curiosité pour celui qui est face à vous. Moi, j'ai été souvent avec des professeurs qui me donnaient l'impression qu'ils savaient beaucoup de choses, mais que je les intéressais pas beaucoup. Et ce que j'aime dans ce personnage que je construis, comme tous mes Keating à moi, j'en ai eu d'autres que ce monsieur Reville, c'est que j'ai eu l'impression d'exister à leurs yeux.
Mais est-ce que ça veut dire que pour comprendre ce que dit un professeur, il faut être ému, pas simplement remué dans son intelligence,
ben, il faut
mais
être
ému existentiellement presque?
Oui, je crois qu'il y a un peu de ça. Je crois qu'un grand professeur arrive à toucher entre les lignes de ce qu'il vous donne quelque chose qui vous est personnel. C'est cette entre-ligne d'ailleurs qui justifie un peu notre échange aujourd'hui, parce que c'est on rentre dans quelque chose qui est au-delà de métaphysique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dans le cours, mais qui dans la manière de le transmettre et dans aussi le choix de ce qui va être transmis appelle l'élève ou celui qui écoute à être à partir dans un voyage.
Mais Stéphane Fraisse, si on vous proposait de jouer un rôle qui soit celui d'un grand physicien du passé, je sais pas, Galilée, Einstein, Dirac ou un autre, quel serait celui que vous choisiriez, soit parce qu'il est proche de vous, soit au contraire parce qu'il vous semble complètement extraordinaire?
Déjà, c'est là que je veux commencer à montrer mes lacunes en matière de
connaissance. Ah, Galilée, quand même.
Non, mais je les connais évidemment.
Vous pourriez jouer Galilée.
En venant, oui, d'ailleurs, je l'ai regardé parce que tous ces physiciens ou astronautes.
Il y a eu un moment où il avait votre âge, hein, ça pourrait coller.
Oui, à un moment, mon âge et le sien n'étaient pas très lointains quand il a disparu de cette terre. On mourait plus jeune à l'époque. Et non, il y a Galilée, il y a Newton, qui avait d'ailleurs une certaine gueule.
Ouais, qui était pas très marrant.
Je sais pas, je l'ai pas bien connu, mais en tout cas, il avait une certaine gueule sur Internet. Et Einstein, d'ailleurs. Est-ce que vous me permettez de tout de suite sortir de la route et de vous lire un texte?
Allez-y.
Puisque vous me citiez Einstein. Je vous dis pas qui c'est.
Ok.
Je vais essayer de le lire assez vite, il y a 3 pages, mais ça, je vais le faire
au mieux.
3 pages. Il semble incongru et potentiellement stupide d'associer le père de la théorie de la relativité, donc Einstein, et le plus grand groupe de rock du monde, les Stones. Autre temps, autre mœurs, autre style, autre registre, pas le même genre d'excès, a priori rien à voir, donc circuler. Circuler, sauf que sur le mur de ma chambre d'adolescent, j'avais accroché 2 portraits d'Einstein. Sur l'un, il était jeune, élégant, avec un regard pétillant et une bouche gourmande, orné d'une fine moustache. Et sur l'autre, il était vieux, tourmenté, vêtu de façon négligée. Et entre les deux, j'avais punaisé un poster des Stones, alors trentenaire et fringant. Cette improbable juxtaposition était-elle un simple effet du hasard? J'y vois plutôt un signe, le signe que dans mon imaginaire d'alors, le savant et ces gars-là appartenaient secrètement au même monde, à un monde aux contours diffus que, du haut de mes 14 ou 15 ans, je n'aurais pas su distinguer et encore moins définir. Sans doute avais-je seulement deviné ou pressenti l'existence d'un lien invisible entre eux, restait à en découvrir la nature. Princeton, New Jersey, 14 mars 1951. Albert Einstein trotte sur une banquette arrière d'une imposante berline entourée de Frank Edlott, l'ancien directeur de l'Institut de Princeton, tout sourire, et de l'épouse de ce dernier. Exceptionnellement, il porte une cravate, et encore plus incroyable. Celle-ci est parfaitement ajustée. Il vient de fêter son anniversaire dans un restaurant de la ville où il a également remis le premier Einstein Award for Achievements in Natural Sciences. Dans son référentiel propre, le père de la théorie de la relativité vient tout juste d'avoir 72 ans. Sa lourde tête est auréolée comme toujours de longues mèches blanches passablement hirsutes. Quelques jours auparavant, il a pourtant reçu par lettre ce conseil avisé d'une jeune fille de 6 ans, Anne Cosine. « Je vous ai vu en photo dans le journal, vous devriez vous faire couper les cheveux, ça vous permettrait de mieux voir. » Autour de la berline se presse la foule des photographes, ces parasites de la gloire qui le traquent depuis des heures et qui émanent un sourire. Einstein est allergique aux règles arbitraires ou aux injonctions, surtout s'il s'agit de produire des risettes de circonstances. C'est de notoriété publique, les paparazzi devraient le savoir. Il exècre les appareils photos, les questions servies en rafale, la déformation systématique de ses propos dans les journaux. Et pour bien signifier son refus de se prêter au jeu de la représentation codifiée, Einstein leur tire ostentatoirement la langue du pur esprit dada. Photographe de l'agence de presse United Press International, seul Arthur Sass a le réflexe d'appuyer sur le bouton. Après d'ardents débats, publié ou ne pas publier, les rédacteurs de Sass se décideront finalement à sortir la photo dans le réseau de l'International News Service. Rétrospectivement, fier de son coup, Einstein en commandera 9 exemplaires et s'en servira comme carte de vœux pour les années 1952, 53, 54 et 55, après il était mort. Elle lui collera ensuite à la peau, tel un tatouage indélébile, autant que la pomme à celle de Newton, comme quoi son geste improvisé, il est vrai, plus simple que n'importe quelle équation, résumait à lui seul sa personnalité. Indépendance d'esprit absolu, mépris pour les aspirations flottant autour du grand corps de la foule, difficulté à accepter l'autorité, d'où qu'elle vienne, refus de livrer une image de soi conforme aux règles du genre, elle deviendra de surcroît une source d'inspiration quasi inépuisable par les artistes et les publicitaires qui la coloriseront, la déformeront et la détourneront de mille et une manières. En vertu de quelques principes de symétrie, Einstein, impertinent à l'occasion, manifestait une certaine affection envers ceux qui l'honoraient de leur impertinence. Après l'arrivée de Hitler au pouvoir, alors qu'il résidait avec sa femme Elsa dans la station balnéaire belge de Coq-sur-Mer, chaque matin à heure fixe, il partait en promenade en suivant un itinéraire invariable. Et s'il tenait tant à ce rituel, c'est parce qu'il était sûr d'y croiser une jeune fille, toujours assise à cette heure-là sur le même rocher qui le gratifiait aussitôt d'un « Salut vieille nouille ». C'est presque fini. Londres, été 1970. Les Rolling Stones s'apprêtent à sortir Sticky Fingers, leur album le plus explosif et le plus riche en nouveaux sons, fruit d'une longue maturation, 400 jours exactement selon les meilleurs biographes du groupe. Un album doublement mémorable puisqu'il inaugure aussi leur logo, plaqué sur la célèbre pochette fermeture éclair imaginée par Andy Warhol. Quelques mois plus tôt, en prévision d'une grande tournée européenne, les cinq se sont en effet mis en tête d'en faire fabriquer un, de logo, qui les symbolisa. Contacté par leur agent, le directeur du Royal College de Londres, il leur a recommandé un étudiant talentueux de 24 ans, John Pash. C'est ainsi que le jeune homme se retrouva un jour chez Mick Jagger, sur Chin Walk. Il m'a montré une image qui provenait d'une petite boutique du quartier indien de Londres, une image de Kali, la déesse hindoue du temps destructeur, se souvient John Pash. Il avait décroché du mur. J'ai immédiatement remarqué la bouche et la langue. Séance tenante, le jeune homme dessine le logo le plus iconique de l'histoire du rock, une sorte d'écho graphique épuré de la bouche lipue de Mick Jagger, symbole à la fois d'insolence et de provocation sexuelle. Cette langue tirée entre de grosses lèvres se démultipliera exactement comme celle, plus pointue, d'Einstein en 1953, en poster et en pochette, en t-shirt et en pins. En composant son dessin, John Pash avait-il en tête, outre l'image de Kali, la photo d'Einstein tirant la langue. À ma connaissance, l'histoire ne le dit pas. Qu'on me pardonne cette rétro-projection, le style d'Einstein était bel et bien Rolling Stones. Comme eux, il était de la patrie des rebelles, la petite nation de ceux qui joyeusement tirent la langue et se comprennent sans parler la même. Voilà.
Merci Stéphane Fleck.
Je citerai l'auteur.
Non, je suis très gêné.
Étienne Klein.
C'était pas prévu.
Non, c'était
moi,
pas prévu.
Je vous avais demandé de préparer des textes.
C'était
écrits par des grands physiciens.
Vous en êtes un, mon cher ami. Bon, mais ce que j'aime là-dedans, et ça me permet de rebondir sur notre conversation, c'est que je joue Keating, qui effectivement est le prêtre de l'anticonformisme dans sa manière de transmettre son savoir, et que grâce à ce que je vis chaque soir, je re-questionne tous les jours mes certitudes. Je tire d'une certaine manière, comme lui, la langue, à ce que je croyais être quelque chose d'assez solide sur lequel je tenais, quelque chose qui me rassurait. Et tous ces mots, qui étaient des mots qui me donnaient un certain courage, une certaine force, en s'effritant, en réalité, en me plongeant dans un espace de doute, ont finalement fait entrer en moi une nouvelle vie, un nouvel oxygène. Et je trouve que, en ce sens, et en vous lisant, et en lisant d'autres physiciens que j'ai lus plus récemment, il y a de ça.
C'est-à-dire que si on veut que la physique soit transmise, il faut mélanger les genres, d'une certaine façon. Créer des courts-circuits. Comme le fait Keating dans la pièce.
Ouais, créer des courts-circuits, mettre mal à l'aise, déplacer l'attention ailleurs, ne pas prendre comme une vérité ce qui nous apparaît comme une vérité parce qu'elle a été dite comme une vérité par des gens en qui on a confiance. Au fond, tâcher de ne jamais penser deux fois de la même manière.
Mais les grands physiciens qu'on a évoqués, Galilée, Einstein et quelques autres, ils ont pratiqué ce qu'on appelle des expériences de pensée, on y reviendra, on lira des textes qu'ils ont écrits à ce sujet. Mais est-ce que le fait d'être acteur, ça n'est pas la même chose? C'est-à-dire, quand vous devez jouer un personnage qui n'est pas vous, par définition, vous devez faire une sorte d'expérience de pensée avec votre corps. Comment je serais si j'étais lui? Et ma question, c'est jusqu'à quel point on peut pousser ce décalage entre qui vous êtes et qui vous jouez? C'est une question bateau, mais...
Non, ben on dit souvent qu'il y a une schizophrénie chez l'acteur. Je sais pas très bien ce que ça veut dire. Résumé vite fait, il y a deux sortes d'acteurs. Ceux qui sont dans un état de contrôle, ou qui cherchent à être dans cet état de contrôle parfait, je crois Michel Bouquet disait ça, un état où on est certes plus soi-même, puisqu'on dit les mots d'un autre, puisque la situation n'est pas celle qu'on vit normalement à ce moment-là. Mais en même temps, les mots qui vous échappent, qui ne sont pas écrits par vous, pourraient pratiquement être de vous, parce que vous les entendez venir comme s'ils venaient, entre guillemets, de vous. Je sais pas si je suis clair. Et puis il y a ceux qui pensent, et je crois plutôt en faire partie, qu'il y a, chez l'acteur aussi, et c'est heureux, un état d'abandon. Quelque chose qui se fait pratiquement, je dirais, en état d'hypnose, où certes vous êtes là sur scène, certes vous savez encore ce que votre corps peut produire, mais en même temps, et c'est la beauté de la chose, il y a quelque chose qui vous échappe.
Mais est-ce que vous restez un petit peu spectateur de vous-même, en vous disant « tiens, je suis en train de jouer » ?
Quand j'arrive à ce stade, cette crête-là, c'est généralement là où j'oublie mon texte.
Donc c'est la catastrophe.
C'est-à-dire que, oui et non, quand je suis seul, ça peut être plus problématique. Et alors, il faut retomber sur ses pieds. On retombe à peu près toujours sur ses pieds, mais parfois, c'est plus douloureux. Mais quand vous avez face à vous, ce que j'ai chaque soir, au moins 6 ou 8 jeunes acteurs qui vous regardent et qui sont pétrifiés parce qu'ils se disent, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? On se sent un peu plus rassuré parce qu'ils sont d'abord très solidaires, très bienveillants, très virtuoses et ils me ramènent dans la voie. Mais peu importe, en fait, je trouve ce qui est fantastique quand vous perdez votre texte, et encore une fois, ça revient à la question. Il y a un moment de blanc qui n'est pas le vôtre, qui n'est plus celui de votre personnage, et il est tellement épais que la salle est dans un silence impressionnant. Je l'ai expérimenté deux ou trois fois, c'est troublant. Et les gens pensent qu'on joue ça, qu'on met le spectateur dans cet état de... Qu'est-ce qui va venir après la virgule? Faut pas trop renouveler le jeu parce que c'est casse-gueule, mais...
Il n'y a pas un peu de panique?
Ça va trop vite. Ça va trop vite. Il y a une panique, oui, mais encore une fois, qui panique? Moi ou Keating à ce moment-là? Je sais.
Non. Et Stéphane Fraisse, vous jouez cette pièce depuis quelques semaines.
Ah oui,
ça va encore durer.
C'est la 80e ce soir.
Voilà. Est-ce qu'on s'habitue? Est-ce que ce travail de changement d'identité, partiel comme vous l'avez dit, mais c'est quand même un changement d'identité, de saut dans quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on s'y habitue? Est-ce que ça devient automatique? Ou est-ce qu'à chaque fois, il y a une remise en condition préalable qui permet la chose?
Ben, je dirais que le premier jour, on monte sur une scène avec un personnage qu'on crée. Pardon pour l'image extrêmement simpliste, mais on met les pieds dans une chaussure qu'il va falloir faire. Et on a beau l'avoir essayé d'abord chez le cordonnier ou dans le magasin de chaussures, quand il va falloir marcher avec, on va avoir peut-être un peu de mal, mais après, évidemment, on y entre plus facilement, même sans chausse-pied. Et là, le danger, il est là. C'est qu'il faut pas l'avoir trop élargi non plus. C'est-à-dire qu'il faut quand même retrouver la même chaussure, le même goût pour la porter et la même élégance quand on la porte, si ce sont des chaussures élégantes, quoi. Il y a ça. Moi, je sais à peu près les 2-3 adjectifs qualificatifs que je peux donner à mon personnage avant d'entrer sur scène. Et puis après, je me laisse surprendre par ce qui va se passer.
Stéphane Frey, j'ai une autre question qui est liée à votre 18 sur 20 au baccalauréat, ouais, en physique-chimie.
Il est vieux, hein.
Oui, mais c'est quand même une très bonne note. Tout le monde ne l'a pas. Est-ce que cette bonne note vous a encouragé dans toute la suite de votre vie à vous intéresser à la physique? Est-ce que vous suivez l'actualité?
C'est marrant.
Quand il y a un prix Nobel, une grande découverte, un trou noir qui se pointe,
ouais,
une nouvelle particule qui est détectée, une non-séparabilité qui se manifeste, est-ce que ça vous interpelle?
Bon, alors, je suis désolé, mais c'est votre fête aujourd'hui, mais d'abord, vous m'avez donné beaucoup de goût à ça, parce que je suis depuis longtemps, parce que j'aime vos conférences, vos émissions, votre pédagogie, votre...
On arrête là.
Votre liberté. Non, on n'arrête pas là. Et surtout, quelque chose qui revient encore à Keating, qui est cette capacité à faire de la philosophie. Oui, de la philosophie avec la physique. Et d'ailleurs, c'est le goût des mots. C'est ce qui nous unit tous, nous deux en tout cas. C'est cette capacité, ce plaisir à compter, puisque je crois que c'est le titre de l'émission. Et
la physique, comment est-ce que ça se compte? C'est voilà. Le titre que j'ai choisi. J'ai pensé qu'il vous correspondait assez bien.
Oui, mais c'est vrai. Mais on est, pardon, mais c'est peut-être le rare point commun qu'on a tous les deux, qu'on est deux compteurs. Mais pour répondre à votre question, ouais, c'est marrant parce que puisque je savais que je faisais votre émission, je suis passé dans ma bibliothèque et j'ai ressorti quelques bouquins d'astrophysiciens ou de physiciens. Je suis tombé sur un bouquin d'Hubert Reeves que j'avais acheté. Quand j'étais môme.
Qui est venu à cette émission.
Qui est venu à votre émission.
Bien sûr. Voilà.
Mettez-moi encore un peu plus la passion. Et je me rends compte qu'à 20 ans, en fait, je m'enivrais de la lecture d'astrophysiciens.
Ah oui, c'est l'heure de s'enivrer, c'est ça?
Non, c'est pas celui-là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi celui-là que j'ai aussi, d'ailleurs. Et comme lire les gens pauvres, je me rends compte que je ressortais toujours une image que je vais vous donner, mais que vous connaissez évidemment, qui est dans ce livre qui s'appelle L'évolution cosmique. Quand je dis comme les gens pauvres, parce que les gens pauvres font la cuisine avec les mêmes ingrédients, donc je la resserre souvent, mais elle m'est utile aussi dans ma vie d'acteur, quand je parle à des jeunes acteurs, quand il veut expliquer le Big Bang, et qui dit à des jeunes enfants, il leur demande, mais pour leur expliquer, il dit, mais vous allez parfois au bord de la mer, oui. Alors qu'est-ce que vous voyez? Bah la mer, oui, mais quand vous allez en Bretagne, par exemple, il y a une digue, donc la mer est haute, oui. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah la mer se retire. Et alors, bon, je le fais vite. Et alors, bah on dit un petit, on voit du sable et on voit des coquillages et des choses que les gens ont oubliées. Bah, il dit, voilà, c'est ça le Big Bang. C'est le temps que met la vague à se retirer. Et moi, je dirais que c'est exactement propre et juste pour mon métier. Quand je vois des jeunes acteurs et que je donne des masterclass, je leur dis exactement la même chose. J'arrive voir des jeunes qui ont 18 ou 20 ans, qui n'ont évidemment aucune expérience, donc aucune confiance en eux de ce point de vue-là. Et je leur dis, ayez confiance, ce qui est absurde, en principe. Mais je leur sors cette métaphore, cette image de cette mer haute qui va se retirer, en fait. Le sable et tout ce qu'il y a en dessous, il est déjà à l'intérieur d'eux. Les personnages qui vont vivre sont déjà là. Il faut juste avoir
donc
la science.
La physique peut se servir de moyen pédagogique pour le métier d'acteur.
Mais moi,
quand on est jeune, pour la formation.
Oui, mais je m'en suis pas servi pour ça. Je trouve que l'image est belle et je trouve qu'elle est joyeuse, elle est ludique, elle est...
Alors Stéphane Frey, j'ai décidé de ne plus vous laisser la moindre initiative dans le choix des textes que vous allez lire. Et donc je vous impose de lire un texte de Galilée que je vous ai donné, qui me semble traduire l'essence même de la révolution qui s'est produite au XVIIe siècle.
D'accord.
Et qui a donné naissance à ce qu'on appelle la physique moderne.
D'accord, alors je vous dis, vous m'en avez donné deux ou trois. Il y en a certains qui sont plus complexes pour moi.
Mais je crois pas que ce soit le cas de celui-ci.
Non, celui-là ça va, mais...
On verra.
J'ai pas toujours tout compris, voilà. Alors, donc, c'est tiré du discours et démonstration mathématique concernant deux sciences nouvelles. Et c'est écrit en 1638. Lorsqu'on place une grande pierre sur une balance, non seulement elle pèsera davantage si on lui superpose une autre pierre, mais l'ajout d'une mèche d'étoupe augmentera son poids des 6 ou 10 onces que pèsera celle-ci. Mais si vous laissez tomber librement d'une certaine hauteur la pierre et la mèche attachées ensemble, est-ce que vous croyez que dans le mouvement, la mèche pèsera sur la pierre, de sorte qu'elle devrait accélérer son mouvement? Ou bien croyez-vous que la mèche ralentira la pierre en la soutenant en partie? Nous sentons peser un poids sur nos épaules lorsque nous voulons nous opposer à son mouvement. Mais si nous chutions à la vitesse à laquelle ce poids chuterait naturellement, comment voulez-vous qu'il s'appuie et pèse sur nous? Ne voyez-vous pas que cela reviendrait à vouloir blesser à la lance quelqu'un qui court devant vous à une vitesse égale ou supérieure à celle à laquelle vous le poursuivez? Concluez, par conséquent, que dans la chute libre et naturelle, la plus petite pierre ne pèsera pas sur la plus grande, et donc n'accroît pas son poids, comme elle le fait au repos.
Merci. Alors, moi, je trouve que c'est un texte incroyable.
Oui.
Il résonne sans faire d'expérience. Il fait ce qu'on appelle justement une expérience de pensée. Une expérience qu'il fait dans son laboratoire, sans partir de l'observation. Et il est presque au bord de dénoncer ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Il comprend que quand on tombe en chute libre, on ne sent pas son poids. Ça, c'est ce que dit Einstein. On y reviendra tout à l'heure. Mais là, il montre qu'il y a un paradoxe. Si vous supposez que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, ce qui est le cas quand on les voit tomber dans l'atmosphère, eh bien, imaginez ce qui se passe si vous associez, vous reliez l'une à l'autre une grosse pierre et une petite pierre. Imaginez, en supposant que les gros objets tombent plus vite que les petits, que vous laissiez tomber l'ensemble d'une certaine hauteur. Ben, vous allez en conclure que comme c'est plus lourd que la grosse pierre toute seule, ça tombe plus vite. Mmh. Oui, mais en même temps, pendant la chute, la petite pierre qui tombe moins vite, va tendre la corde et faire parachute. De sorte que l'ensemble tombera moins vite. Mmh. Que la grosse pierre toute seule. Donc elle tombe, l'ensemble tombe plus vite et tombe moins vite que la grosse pierre toute seule. Comment résoudre le paradoxe? Et c'est ce qu'il fait là, en disant que la grosse pierre tombe à la même vitesse que la petite, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et c'est là que les choses intéressantes commencent. Donc il fait une expérience de pensée comme vous, quand vous imaginez ce que vous feriez si vous étiez dans une autre situation que la vôtre, en étant acteur.
Moi, bien au-delà d'être physique, je trouve ça très poétique surtout.
Est-ce que vous êtes prêt à en lire un autre?
Ben oui.
Après, je vous laisse presque tranquille pendant 5 minutes, mais il y a la continuité de cette histoire qui est l'expérience de pensée que Einstein a faite en 1907, qui prolonge et radicalise celle que vous venez de lire de Galilée.
Alors oui, effectivement, donc c'est un texte d'Albert Einstein qu'il a écrit en 1922. Et il dit ceci. 1907, je me suis rendu compte que, alors que toutes les autres lois de la nature pouvaient s'exprimer grâce à la théorie de la relativité restreinte, cette théorie ne pouvait pas s'appliquer à la loi de la gravitation universelle. J'ai ressenti le profond désir de comprendre pourquoi c'était le cas, mais il n'était pas aisé d'atteindre cet objectif. Ce qui me gênait le plus avec la théorie de la relativité restreinte, bien que la théorie explique d'une belle manière la relation entre inertie et énergie, c'est que la relation entre l'énergie et le poids, c'est-à-dire l'énergie du champ gravitationnel, restait encore très confuse. J'ai senti qu'il était probablement impossible d'élaborer cette explication avec la théorie de la relativité restreinte. J'étais assis sur ma chaise dans le bureau des brevets à Berne lorsqu'une idée m'est apparue. Si une personne tombe en chute libre, elle ne ressentira pas son propre poids. Je fus saisi. Cette pensée, toute simple, me marqua profondément. Mon excitation m'amena à développer une nouvelle théorie de la gravitation. Je fis ensuite la réflexion suivante. Lorsqu'une personne tombe, elle accélère. Ces observations ne sont donc que des observations dans un système en accélération. Je décidai donc de généraliser aux systèmes accélérés la théorie de la relativité portant sur les systèmes en mouvement à vitesse uniforme. J'escomptais que cette généralisation me permettrait également de résoudre la question de la gravitation. En effet, le fait qu'une personne en chute libre ne ressent pas son propre poids peut être interprété comme étant dû à un nouveau champ de gravitation supplémentaire qui viendrait compenser le champ gravitationnel terrestre. En d'autres termes, un système accéléré produit un nouveau champ gravitationnel. Je n'ai pas été en mesure de résoudre immédiatement le problème dans son intégralité sur la base de cette inspiration. Cela m'a pris 8 années supplémentaires pour trouver la relation correcte. Mais entre-temps, toutefois, je suis parvenu à déterminer une partie des fondements globaux de la solution.
Merci Stéphane Reiss. Donc c'est la façon dont Einstein raconte l'idée qu'il a qualifié d'idée la plus heureuse de sa vie, qu'il a eue en 1907, qui prolonge un peu l'expérience de Galilée, sauf qu'il met en scène son corps. Il imagine qu'il tombe en chute libre, dans le vide. Et si vous lâchez un objet qui est dans votre main pendant que vous tombez en chute libre, comme tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, cet objet par rapport à vous ne tombe pas. Donc le fait de subir la gravitation vous donne l'impression qu'il n'y a pas de gravitation. Le fait de subir la pesanteur vous met en impesanteur. Et il comprend que ce qu'on appelle l'impesanteur, c'est pas l'absence de pesanteur, c'est l'absence de ressenti de la pesanteur. Par exemple, là, on sent qu'on a un poids parce qu'on est assis. Et c'est la réaction de notre chaise qui nous fait sentir notre poids. Mais quand on est en chute libre, la seule force qu'on subit, c'est son poids. Et quand on ne subit que son poids, on ne sent pas qu'on a un poids. C'est quand même une idée assez simple. Il le raconte, il a fallu 8 ans pour qu'il passe de cette idée assez simple, qu'il la formalise, qu'il la traduise en équation, dans un formalisme qui s'appelle la relativité générale et qui change complètement la façon de comprendre la gravitation. C'est quand même... D'abord, quand on lit bien comme vous, ça fait mieux comprendre ce qu'il y a dans un texte. Mais on voit bien qu'il fait une observation qui est assez banale. N'importe qui pourrait comprendre ce qu'il décrit comme expérience. Quand on tombe, on sent pas qu'on a un poids. Mais lui, il en fait une théorie extrêmement compliquée à partir de cette idée simple. Et c'est le saut entre l'idée simple et sa formalisation complète en une nouvelle théorie qui me semble magnifique. Oui. Alors qu'il a très peu de données. Hein. À l'époque... on ne sait pas que l'univers est en expansion, on ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre, on ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent. Et aujourd'hui, on sait tout ça, mais on utilise toujours les équations d'Einstein quand il s'agit de faire de la cosmologie. Donc, c'est pas l'observation directe qui permet de comprendre, c'est plutôt des pas de côté qui déplacent dans un ailleurs où on revient armé de nouvelles idées pour interroger le réel.
Se mettre dans un état d'incertitude à un moment de remettre en doute.
Aller se faire voir ailleurs.
Oui, aller se faire voir ailleurs, j'adore ça. Mais en fait, l'acteur, oui, mais j'allais vous le dire, l'acteur fait un peu le même travail, c'est-à-dire que, mais bon, avec d'autres conséquences, mais il fait un peu le même travail parce qu'en fait, il va s'approcher d'un personnage, et faire un voyage, d'abord, un voyage par la pensée, un voyage, il va rêver avec lui, il va l'emmener avec lui dans un rêve et essayer de rendre ce rêve réel. Il fait une expérience au fond sur scène. Il fait une expérience chaque jour en utilisant les mots et en les faisant vibrer d'une certaine manière pour finalement arriver à ce qui lui semble être la juste harmonie, la juste alchimie entre lui et vous. C'est ce que je vous disais hors émission tout à l'heure, c'est que on pense l'avoir trouvé quand on arrive pour la première fois sur scène, et on se rend compte encore que la chose évolue représentation après représentation. Mais c'est vrai, visiblement aussi dans la physique. Où...
Et quand vous lisez un texte comme celui-là, est-ce que vous n'avez pas l'impression que des gens comme Galilée, Einstein et d'autres que peut-être on aura le temps de lire, sont des gens qui, parce qu'ils pensent clairement ce qu'ils ont compris, l'écrivent clairement. C'est quand même de la belle langue.
Oui. Sûrement. Moi, quand c'est écrit aussi clairement, ça m'invite à rêver. Parce que moi, encore une fois, je reviens à l'entre-ligne. C'est-à-dire que cette chose qu'est le langage et qui place entre l'être, qui nous place entre l'être et le réel. Je crois, sans citer pompeusement Bergson, c'est cet état où on est à la fois porté par la langue et en même temps trahi. Parce que la langue ne peut pas, restituer exactement tout ce que nous aimerions lui faire dire. Et c'est marrant parce que dans le spectacle, je cite Nietzsche. Et dans Le Gai Savoir, il dit ça, il ajoute le mouvement qui est cher à votre travail. C'est-à-dire cette idée que le mot ne suffit pas et qu'il faut lui ajouter le mouvement. Et que même, pour moi d'ailleurs, c'est insuffisant. Il y a encore quelque chose qui se glisse quelque part, qui manque, qui rendrait la chose...
Alors là, on a lu Stéphane Fraisse des textes écrits par des hommes, Galilée, Einstein, mais j'aimerais que vous lisiez un texte écrit par une femme, écrit en 1934. Cette femme s'appelait Ida Nodak. C'était une chimiste dont l'époux était Walter Nodak, lui-même chimiste, et ensemble, en 1925, ils ont découvert deux nouveaux éléments chimiques, le numéro 43, qu'ils ont appelé le masurium, parce que la Mazurie était la terre des ancêtres de Walter Nodak, en Pologne, et le second, numéro atomique 75, ils l'ont appelé le rhénium, en l'honneur de la région natale d'Ida Nodak, qui est la Rhénanie. Et en 1934, un physicien italien, Enrico Fermi, bombarde avec ses collègues de l'uranium avec des neutrons, et ils sont persuadés que les neutrons vont être absorbés par les noyaux d'uranium qui contiennent 92 protons. Ils pensent que le neutron va se transformer en proton par la radioactivité bêta, et donc il faut faire un élément chimique plus lourd que tous ceux qui existent, l'élément 93, avec 93 protons à l'intérieur, et ça leur vaudra une grande notoriété. Et quelques temps plus tard, Ida Nodak écrit une lettre à Enrico Fermi, qui sera pas prise au sérieux, mais qui contient la bonne solution, consistant à dire que l'élément 93, en l'occurrence, n'a pas été fabriqué. Mmh. Il s'est passé autre chose.
Je ne vous dis pas, cher Étienne, à quel moment vous m'avez perdu là dans votre raisonnement.
Je répéterai.
C'est sage.
Mais voilà, lisez les quelques lignes qu'elle a écrites en 1934 dans un article qui s'appelle Huber das Element 93. Pour la petite histoire, le patron du laboratoire de Fermi voulait appeler cet élément chimique nouveau le Mussolinium.
Ah ouais.
Pour se faire bien voir de son Duce. Et Fermi a trouvé une parade pour empêcher que cette appellation soit choisie. Il a dit, cet élément est radioactif, il a certainement une très courte durée de vie, ce qui pourrait déplaire au Duce. Donc il n'a pas été baptisé, on l'a appelé, en tout cas pas à l'époque, on l'a appelé l'élément 93.
Donc là, vous avez compris que ce que je vais dire, je ne le comprends pas complètement, mais en fait, ça nous arrive souvent à nous, hein, Hector.
Alors,
donc
ça va le faire.
C'est le métier du faire semblant. Donc je lis Ida Nodak. On peut tout aussi bien supposer que lorsque les neutrons sont exploités pour produire des désintégrations nucléaires, plusieurs réactions nucléaires tout à fait nouvelles surviennent, qui n'ont pas été observées auparavant en bombardant des noyaux atomiques avec des protons ou des particules alpha. Par le passé, on a trouvé que les transmutations de noyaux ne surviennent qu'avec une émission d'électrons, de protons ou de noyaux d'hélium, de sorte que la masse des éléments lourds n'est modifiée que dans une faible proportion pour produire les éléments les plus proches. Lorsque les noyaux lourds sont bombardés par des neutrons, il est concevable que le noyau se brise en plusieurs fragments de bonne taille, qui seront bien entendu des isotopes d'éléments connus, sans pour autant être des voisins de l'élément irradié.
Bah merci, mais c'est quand même clair, non ?
Content d'avoir lu ça.
C'est-à-dire, plus, à l'époque, les radioactivités qu'on connaît, un noyau peut émettre des électrons, c'est la radioactivité bêta, ou bien des photons, c'est la radioactivité gamma, ou bien des particules alpha, c'est la radioactivité alpha. Donc le noyau se débarrasse de protons, neutrons, de particules assez légères. Donc sa masse n'est pas vraiment modifiée. Mais ce qu'elle imagine là, c'est qu'il s'est peut-être passé autre chose. Que le noyau d'uranium 235 a fissionné. Il s'est coupé en morceaux. Elle dit pas le nom, mais en fait c'est deux morceaux. Et elle comprend que ce qu'a fait Fermi, c'est sans doute de la fission nucléaire. Et ils n'ont pas pris au sérieux. Ils ont rigolé en lisant cette lettre. Et l'expérience sera refaite en 1938 par Otto Hahn en Allemagne. Et il va constater que dans la cible bombardée, il y a du barium. Il va penser que ce sont des impuretés. Il va montrer ses résultats à Lise Meitner, une femme, qui a dû s'exiler parce qu'elle était juive et elle a dû quitter donc l'Allemagne à cette époque pour se réfugier en Suède. Et c'est elle qui a compris que l'uranium avait fissionné, que le barium trouvé dans la cible était le résultat de la fission de certains des noyaux d'uranium.
Donc c'est toujours assez bouleversant.
Et vous voyez que c'est quand même bizarre, parce que si on avait pris au sérieux cette femme dès 1934, on aurait donc découvert officiellement la fission dès 1934.
Ah oui, on aurait vécu.
On aurait pensé à la bombe dès 1935, sans doute. Quand on a compris que ça pouvait engendrer des réactions en chaîne. Et la suite de l'histoire, qu'est-ce qui se serait passé si? Pose question.
Oui, mais ce que j'allais vous dire, c'est que je trouve ça assez bouleversant, les destins de ces gens qui ont découvert avant les autres et n'ont pas été, Et ils n'ont pas été pris au sérieux. Je crois que c'est vous, ou peut-être un autre, que j'avais entendu raconter l'histoire de Boltzmann.
Ouais.
Et que je trouvais magnifique. Et ce sont des sujets de films, quoi.
Alors justement, pourquoi est-ce que vous expliquez qu'il y a assez peu de pièces de théâtre mettant en scène des scientifiques? Des films, il commence à y en avoir. Oppenheimer.
Parce que d'abord, il faut comprendre tout ce qu'on vient de se dire là. Là, on est dans un petit cercle de gens que vous avez habitué à entendre ça, ou qui vous suivent, ou qui sont eux-mêmes des physiciens. Mais pour rendre palpable, crédible, légitime, un acteur à dire ça, c'est pas facile. On peut raconter l'histoire de cet Ida Novak, ou de ce Boltzmann, ou de ce mathématicien qui est mort à 19 ans, le nom m'échappe à l'instant.
Galois,
Évariste Galois. On peut, et on en fait souvent des choses très jolies, mais entrer plus avant, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, je sais. Non? Vous trouvez pas?
Moi, je suis étonné par le fait qu'il n'y ait pas de...
On fait des biopics, on raconte des
histoires. Il n'y a pas de film sur Einstein. Grand film sur Einstein.
Non, mais certainement, il y en aura un, comme vous voyez. Alors maintenant, on tombe dans une pluie de biopics qui sortent sur des personnages importants, donc il y en aura probablement un, mais est-ce que c'est...
Et pourquoi est-ce qu'il y a si peu de science au théâtre, par exemple? Il y a une pièce qui s'appelle Copenhague.
Parce qu'il y a pas mal d'ignorants.
Qui raconte la discussion entre Niels Bohr et Heisenberg.
Il y a pas mal d'ignorants.
Non.
Non, mais c'est-à-dire que, encore une fois, ça revient à se dire comment faire passer ça. Il faut à la fois raconter l'homme ou la femme, le rendre empathique avec le public, le remettre dans une situation historique, et puis quand même toucher un peu à ce qui fait son œuvre. Et là, ça devient un peu plus compliqué, il me semble. Je crois. Mais chez nous, il n'y a pas beaucoup de films, il n'y a pas beaucoup de pièces ou de films sur les scientifiques, sur la science, mais il n'y en a pas plus d'ailleurs sur le monde politique, au théâtre, sur le monde social. On est assez pauvre dans tout ça, je trouve.
Mais peut-être que si on utilisait la recette que vous avez proposée, à savoir, on mettrait en plus de l'émotion, comme dans les pièces que vous jouez, peut-être que ça marcherait bien.
Oui, mais même, vous voyez, j'ai essayé de mettre de l'émotion sur Ida Novak et je suis pas sûr que tout le monde...
Non, mais là, je parle de ça pour la lecture d'un texte. Mais si on s'intéresse à sa biographie tout entière, on l'appelait la Marie Curie allemande.
Ah, c'est une grande chimiste. Mais je suis certain, et c'est là que je vous dis que c'est bouleversant, parce que je suis sûr...
Elle a été proposée un certain nombre de fois pour le prix Nobel, elle n'a pas eu. Lise Meitner, qui a eu la bonne idée, n'a pas eu le prix Nobel. C'est Otto Hahn, qui avait lu l'article de Ida Novak, qui pensait que c'était, passez-moi l'expression, du bullshit, qui a eu le prix Nobel.
C'est une très belle histoire à conter, ça. Comme est très beau à conter l'histoire entre Mozart et Salieri. Entre celui qui vient lui chercher à l'autre le génie qu'il a pas et y trouver la gloire. Moi, je trouve ça...
Est-ce que vous pensez qu'on a le temps de lire le dernier texte de...
Je m'en rends pas compte, l'heure passe très vite. Mais enfin, on va pas parler de temps ensemble parce que je suis perdant là dans l'histoire.
De Huygens sur la lumière, un petit extrait du traité de la lumière qui lui aussi écrivait pas mal, je trouve. C'est un texte qui date de 1690.
Ah d'accord, moi vous m'aviez proposé...
La place, on n'aura pas le temps. Allons-y pour la place.
Huygens, déjà que quand je le travaille un peu, c'est compliqué. Alors vous rendez compte, si je me jette dans le vide, je veux bien laisser.
Alors la place. Allons.
Vous voulez Huygens?
Non, la place.
Je vais essayer de faire semblant de comprendre ce que je lis.
Ça commute.
Alors c'est parti. On va lire Huygens. Huygens, qui écrit ça en 1920.
Ah non, 1620.
Bah moi j'ai 1920 en tout cas, Christian Huygens.
Ah non, il était mort.
Ben oui, il était mort depuis un moment, si vous me le dites, 1620, mais moi, c'est ce que j'ai sur...
Ouais, mais c'est Traité de la Lumière par Huygens.
Lui non plus, je l'ai pas bien.
D'ailleurs, c'est même pas 1620, je crois que c'est 1690.
Bon, d'accord. Alors, si en plus, vous me donnez des textes compliqués avec des dates qui sont fausses...
Je maintiens 1690.
Oui, d'accord. Bien. Nous savons que, par le moyen de l'air, qui est un corps invisible et impalpable, le son s'étend tout alentour du lieu où il a été produit, par un mouvement qui passe successivement d'une partie de l'air à l'autre, et que l'extension de ce mouvement, se faisant également vite de tous côtés, il se doit former comme des surfaces sphériques qui s'élargissent toujours et qui viennent frapper notre oreille. Or, il n'y a point de doute que la lumière ne parvienne aussi depuis le corps lumineux jusqu'à nous par quelques mouvements imprimés à la matière qui est entre deux. Puisque nous avons déjà vu que ce ne peut être que par le transport d'un corps qui passerait de l'un à l'autre. Alors là, je vais le relire parce que je l'ai particulièrement mal lu. Je demande un joker. Non, mais là, vous mettez déjà avec un type qui écrit il y a 400 ans.
Des phrases de 4 lignes.
De 4 lignes, oui, mais toute sa connaissance. Quand je pense que j'ai des amis qui m'écoutent, c'est une douleur infinie. Je vais reprendre Huygens et je vais le mettre maintenant en 1920, c'est bien fait pour vous. C'est son cousin. Nous savons que par le moyen de l'air, qui est un corps invisible et impalpable, le son s'étend tout autour du lieu où il a été produit par un mouvement qui passe successivement d'une partie de l'air à l'autre, et que l'extension de ce mouvement, se faisant également vite de tous côtés, il se doit former comme des surfaces sphériques qui s'élargissent toujours et qui viennent frapper notre oreille. Jusque-là, c'est clair. Or, il n'y a point de doute que la lumière ne parvienne aussi, depuis le corps lumineux, jusqu'à nous, par quelques mouvements, imprimés à la matière qui est entre deux, puisque nous avons déjà vu que ce ne peut être que par le transport d'un corps qui passerait de l'un à l'autre. Que si, avec cela, la lumière emploie du temps à son passage, ce que nous allons examiner maintenant, il s'ensuivra que ce mouvement imprimé à la matière est successif et que par conséquent, il s'étend, ainsi que celui du son, par des surfaces et des ondes sphériques. Car je les appelle ondes à la ressemblance de celles que l'on voit se former dans l'eau quand on y jette une pierre, qui représente une telle extension successive en rond, quoique provenant d'une autre cause et seulement dans une surface plane.
Bravo. Merci Stéphane Fraisse. Je reconnais que c'était pas facile. Mais on avait compris qu'il avance l'idée que, contrairement à ce que pensait Newton, à la même époque, la lumière est faite d'ondes. Et il va ouvrir un débat qui va contaminer la physique pendant très longtemps, jusqu'à la mécanique quantique qui va dire c'est ni des ondes ni des corpuscules, c'est autre chose. Mmh. Il le fait à l'issue d'un raisonnement que vous avez lu qui me semble, c'est vrai, pas tout à fait clair, mais intéressant à entendre.
Non mais c'est fascinant parce que là vous me faites lire des gens qui sont en avance sur leur temps.
Mais est-ce que vous pensez que justement si on veut comprendre la physique, il faut lire les textes ceux qui ont les idées qu'on enseigne ? Comment les idées importantes sont nées dans l'histoire, comment elles ont convaincu et comment elles ont été argumentées à l'époque où elles sont apparues.
Je pense qu'elles sont déjà soutenues par des gens qui sont convaincus et passionnés. Et que ce sont déjà, à mon avis, deux moteurs importants pour faire passer l'information et créer, à un moment, interpeller en tout cas la génération de ceux qui...
On arrive à la fin... Stéphane Fraisse. Et avant de lancer la chronique d'Alexandre Adelbault, je voulais vous dire que grâce à vous, j'ai compris le sens de cette phrase de Valère Novarina que j'ai cité tout à l'heure. Il dit « Sans mots, pas de choses. Sans verbe, pas de matière. »
C'est très beau.
Vous m'avez convaincu. On va écouter la chronique d'Alexandre Adelbault avec science et elle va nous parler, je crois, d'un tout autre sujet, le néolithique et la violence.
Comment expliquer au néolithique le déclin génétique du chromosome Y ? C'est ce petit bout d'ADN uniquement porté par les mâles de notre espèce. Il se transmet donc d'homme en homme au fil des générations. Entre la fin du néolithique et le début de l'âge de bronze, donc entre il y a 5000 et 3000 ans, c'est comme si beaucoup de chromosomes Y avaient disparu. Comme si les chromosomes Y se ressemblaient davantage qu'auparavant. C'est un phénomène global qui a eu lieu un peu partout sur la planète. Et jusqu'à présent, on avait tendance à expliquer ce phénomène par une filiation par le père et surtout par l'émergence de la violence. Léa Guillon est doctorante dans l'équipe d'éco-anthropologie du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et elle est la première autrice de cette étude parue dans Nature Communications.
Il y a surtout une hypothèse qui a été proposée, testée et modélisée pour expliquer ce phénomène, qui postulait en fait que les populations à l'époque de la fin du néolithique et du début de l'âge du bronze étaient structurées en clans patrilinéaires. Donc ça veut dire que les enfants sont affiliés au groupe de parenté de leur père, donc en lignée paternelle. Et ces groupes patrilinéaires, enfin ces clans patrilinéaires, étaient en état de guerre, donc en affrontement. Ce qui causait en fait la disparition de certains clans et comme les hommes dans ces clans sont assez apparentés, et ben en fait ils partageaient un même chromosome Y et la disparition de certains clans faisait que les chromosomes Y associés à ces clans disparaissaient en même temps que le clan disparaissait. Ce qui pourrait expliquer en fait le déclin de diversité sur le chromosome Y à cette époque-là.
C'est finalement une idée assez répandue. L'adoption de l'agriculture au néolithique est associée avec un renforcement de la violence parce que la sédentarisation encourage la formation de clans, la territorialisation, la compétition, le combat et finalement une mortalité accrue des hommes. Et s'il n'y a plus beaucoup d'hommes, il y a moins de chromosomes Y différents. Mais est-ce réellement le cas? A-t-on nécessairement besoin de la violence pour expliquer cette chute brutale de diversité? Est-ce que des structures sociales particulières ne pourrait pas, à elle seule, apporter une solution à ce problème? Pour explorer ces questions, cette étude s'est reposée sur le génome de contemporains, notamment de sociétés asiatiques patrilinéaires. Grâce à plus d'un millier de ces génomes, ces scientifiques ont construit des scénarios sociodémographiques, des modélisations de ce qu'il advient de la diversité du chromosome Y dans de nombreuses structures sociales différentes et avec ou sans violence. Résultat, pas besoin de violence, l'organisation en société patrilinéaire, donc quand les enfants sont affiliés au clan de leur père, suffisent à expliquer le déclin génétique sans qu'aucun homme ne meure au combat.
Ce qu'on a voulu tester, c'est est-ce que c'est possible que cette chute de diversité du chromosome Y puisse être possible sans la guerre? Et la réponse est oui, c'est possible. Après, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu de guerre. Ça, on a assez peu d'informations en fait là-dessus. Il y a des études archéologiques qui montrent qu'il y avait des traces de violence sur les squelettes à cette époque-là dans différentes régions du monde. C'est assez difficile en fait de dire à quel point c'était répandu, parce qu'on parle quand même d'un modèle qui implique la mort de 15% des hommes à chaque génération. Les deux éléments qui permettraient d'expliquer cette perte de diversité du chromosome Y, c'est d'une part le fait qu'il y ait des clans qui ont un statut social particulier et donc qui vont avoir plus d'enfants que les autres. Et le deuxième élément, c'est le fait que ces clans, lorsqu'ils atteignent une certaine taille, peuvent se scinder en deux sous-clans. Et dans ces nouveaux clans vont se regrouper des hommes qui sont les plus apparentés entre eux en lignée paternelle, ce qui va avoir pour effet de trier les chromosomes Y, et donc si un des clans finit par disparaître, on va perdre également le chromosome Y qui lui est associé.
Donc cela remet en question cette idée d'une violence globale et uniforme à cette époque-là. La structure en clan patrilinéaire suffit à faire augmenter des chromosomes Y au détriment d'autres. Reste que le phénomène n'est sûrement pas là non plus uniforme. Il faudra donc scruter à l'échelle plus locale, au niveau régional, s'il n'y a pas des histoires particulières. Et la seconde perspective est d'affiner l'évolution de cette diversité grâce à des génomes non pas actuels, mais passés avec de l'ADN ancien.
Merci Alexandra Delbo, merci à vous Stéphane Fraisse. Vous me disiez que vous aviez des choses à ajouter.
Non, mais je voulais vous remercier simplement de m'avoir rendu légitime d'être ce zélig dans cette émission.
Moi, je vous remercie d'avoir lu si bien des textes de physique. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Bouchon, à la technique Sébastien Royer et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Et votre spectacle que vous jouez presque tous les soirs au Théâtre Saint-Antoine.
Au Théâtre Antoine.
Le cercle des poètes disparus.
Merci.